So, Elizabeth. Elizabeth the First. What happened under Elizabeth? Now, Elizabeth is often seen as the golden age of Britain. Of England. Of course, golden age is an opinion. If you were very poor, perhaps it was not so golden. Why a golden age? Well, first of all, we have a queen with a long and stable situation. Secondly, you have, this is the period when Shakespeare is writing his plays, which of course are very exceptional. If you buy the Officieux de Spectacle and you look at the cinema and the theatre, you will find 3 Shakespeare plays at the theatre in Paris today and 5 Shakespeare films. There is no other writer from the 17th century whose texts are still being played every week across the world. It's very exceptional. On a eu du bol, en fait. Il n'était pas spécialement un génie parce qu'il était anglais, mais c'est vrai qu'il a un rôle dans le théâtre qui est tout à fait exceptionnel. On ne peut pas, en utilisant le texte de Racine, on ne peut pas faire un film aujourd'hui qui fait assez d'argent pour le mettre dans les cinémas. C'est dommage, mais c'est le cas. Shakespeare is very exceptional like that. Okay, so, the Elizabethan settlement. Let me just write a few things on the board about this long period then, 40-something years of Elizabeth on the throne. Oh, of course, Elizabeth is a Protestant. And so she, again, in 1559, writes another act of supremacy, supremacy qui est le chef. And so the 1559 act of supremacy, just the same as Henry VIII said, the Queen is the head of the Church of England. Let's have a look at some more important dates. A few years later, you have an outbreak of the plague, la peste. Yeah? 15,000 people die in London. Just to remind you that this is still a very, very dangerous time. In 1563, Elizabeth declares the 39 Articles. And again, this is the same as the 10 Articles of Henry VIII. The 39 Articles is the 39 things you must believe if you are in the Church of England. C'est une liste de croyances, ça. Beaucoup plus détaillée, vous voyez qu'elle a eu du mal, attendez, en faut 39. Yeah? Okay, I will look at them in a moment. Some of them are very interesting. But what is amazing about the 39 Articles is they are the same 39 Articles today in the Church of England. So a very successful establishment of a new church on a kind of compromised Protestantism. Protestant, but not very radical. And this is the success of Elizabeth. A decade or so later, Francis Drake sails a ship completely around the world. Now, in some ways that's not very important, but it's a symbol that in this period the English are now building ships as good as the Spanish ships. They are looking for new land and new places to dominate, more trade, spices, gold if possible. Spices are very important. Les épices étaient extrêmement chères à l'époque. C'est vraiment le, le noix de muscade qu'on achète à Monoprix, hein, Lisa Price même, c'était extrêmement cher. Parce qu'en fait, ça se produisait dans une seule île et les gens étaient convaincus que c'était une remède contre la peste. Ça ne marche pas, hein, n'essayez pas, appelez un médecin. Mais oui, voilà, some of the spices were extremely expensive, but also even salt and pepper, very, very important. Remember, if you have some meats, you have no refrigerator, so salts and spices are essential if you want to eat it next week or next month. So salt and spices are an important part of the economy, much more than today. Another couple of dates. In 1588, the Spanish Armada. Very simple story. The Spanish Armada was an invasion of England by the Spanish. Up in this period, England and Spain are the two big powers who are angry with each other. Perhaps you remember, what part of the world was already dominated by Spain? Quelle partie du monde était déjà dominée par l'Espagne? Et à ce jour, un peu, où est-ce qu'il parle le plus espagnol en dehors de l'Espagne? Amérique latine, oui. Donc les Espagnols, ils avaient commencé avant les Anglais, ils avaient réussi à pas à coloniser, mais à dominer toute l'Amérique du Sud, pas mal, pour un petit pays. The English were beginning to dominate the north of America, and so this was a big conflict. And at this point, in 1588, the Spanish said, we will solve this problem. We will invade England and dominate England. Now, notice this also becomes a religious conflict. Spain is a Catholic country. When you had these two big powers, and Mary, because she was a Catholic, said, I will solve this problem. I will marry the king of the Prince of Spain. So there were two possibilities, an alliance between England and Spain, or a conflict. Once England is definitively a Protestant country, there must be conflict. In 1588, the Spanish Armada comes to invade England, and the English are very lucky because the weather is very bad. Normal, it's England. The Spanish Armada is a disaster. But it is a symbolic date because after 1588, the British dominate the seas of the world. This is the symbolic date. After 1588, the British are the best ships, the most powerful ships, the most violent pirates, etc. Yeah, they really dominate for a long time.
Sans doute pendant 300 ans. Vers 1900, il y a les Allemands qui sont plus forts.
Mais pendant, c'est pas mal, hein, 300 ans dominés. On dit, peut-être que vous connaissez la chanson patriotique affreuse anglaise. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Alors c'est que Bretagne, que la Grande-Bretagne règne. La Grande-Bretagne règne sur les ondes, sur les vagues. Et c'était vraiment littéralement le cas que la mer, les Anglais considéraient que ça nous appartenait. C'est comme ça que ça marche. Ok, 1593. Alors ici, en fait, ce sont des dates un peu symboliques. Ce n'est pas tout ce qui se passe, il y a 17 000 choses, mais quelques symboles. In 1593, the British Statute Mile was established. You know, of course, in France, you have the kilometre, which was established when? When was the kilometre established? Jeudi dernier. No. Any ideas when the kilometre was established? See ya? I think just before, around that time, yeah, about just after the French Revolution. Yeah, after the French Revolution, and in that period of 10 years. I don't think it's Napoleon, I think it's just before, but it could be, it's possible. This period, yeah, when the French Revolution was the light to the world, established the kilometre. Yeah. Well, in 1593, the British established the mile. Very simple. Yeah. 12 inches is a foot. 3 feet is a yard. And 1,760 yards is a mile. Okay, no problem. Fine. Okay. Now, this is important because this is a standardisation. Before 1593, the mile was different in Scotland and in the north of England and different in the south of England. But the standardisation of the mile is because commerce is rising, travel is rising, and there is a need for a scientific approach to ships and the seas and so on. So it's a symbol. It's a symbol of the British organising themselves to go and dominate the West Indies, North America, and so on. And one last one, 1596. Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Yeah, in 1596. It's not the most important date, but a symbolic date, then Romeo and Juliet, written by Mr. Shakespeare. What is it symbolic of? Well, in this period in London, there is a Shakespeare is popular theatre and very sophisticated theatre, political, and talks about politics and the world. It's a sort of representative of a strong urban culture. Okay, so just some symbolic dates to give you an idea of what is going on with Elizabeth. But in fact, in Elizabeth's reign, we will have similar situations as before. The big questions of the age, the economics, religious and social conflicts, conflict between the Queen and Parliament, and finally, the beginnings of empire. These are the four leitmotifs, these are the four important themes of Elizabeth I. We are not surprised. Yeah, religious and political conflicts are very close together. The parliaments will be becoming more and more radical Protestants. And the Queen will want a Protestant church, but very hierarchical, not too much change. But first of all, let's have a look at the economics. The economy is going well. The population doubles in the 16th century. En fait, entre 1500 et 1650, ça double. Aujourd'hui, ça semble à rien, hein, mais à l'époque, dans beaucoup de pays, ça baisse plutôt que monter. Alors, c'est plutôt réussi. Technology is getting better. The draining of the fens. The Fens, ce sont d'énormes marais dans l'est d'Angleterre. Et à cette époque, ils les drainent, ils enlèvent l'eau. Et ça fait une terre agricole très, très bon. Hein, si vous enlevez l'eau de mer souvent. So, ce sont des milliers de kilomètres carrés. Hein. So, the technology is getting better. Avant, on disait, oh merde, il y a des marais, on ne peut rien faire avec. Maintenant, on dit, ah oui, non mais on sait maintenant comment faire enlever l'eau, etc. Very important. Secondly, new crops. There are new materials which are being grown. In particular, flax, c'est du lin, and hemp, c'est du chanvre. And these are important. This makes a big difference. In particular, for qu'est-ce qu'on fait avec du chanvre? Qu'est-ce qu'on fait avec du chanvre? Pas grand-chose, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'histoire avec du chanvre? Il n'y a personne qui a été scout, non? Oui, non, bon. Des cordes. Et bien sûr, quand le voilier est si important, les cordes, c'est d'une importance majeure. Majeure. Yeah. So some of the best rope in the world is produced in England, some of the best ships, etc. Okay, and secondly, there is the rise of two important animals, sheep and cows, in this period. Before, really, we had a few sheep, it's not so important. Sheep and cows becoming very important. En plus, ça devient de plus en plus une industrie, hein, les moutons. Donc on vire tous les paysans des montagnes pour pouvoir élever des moutons. Okay, so let's come back to religion. What did Elizabeth do with this new situation where you have a Protestant church, but a lot of people are not so happy? So you have the Church of England, it's a Protestant church. However, there are also some Catholics. Yeah, they are secret Catholics, yeah, it's dangerous. But there's still some Catholics in the country. And a lot of the people in power, they don't like Catholics. Why do they not like Catholics? First of all, those Catholics, maybe they are friends of Spain. They're probably traitors. Yeah. So the religious difference between Catholic ceremony and Protestant modernization is also a political difference, because the Catholics were always suspected of being à la solde d'une puissance étrangère, plus ça change. That the religion was seen as ce sont pas vraiment des Anglais, ils sont catholiques. Hein? Ça vous dit quelque chose? Okay, right. So, and on the other side, you have here some more radical Protestants. Well, the Church of England, well, good, that's a good beginning, but we need much more change. We need a radical new church, a radical new Protestant church. So, we have, again, a new act of supremacy, je viens d'en parler, et aussi act of uniformity. En uniformité, les cérémonies, c'est la même partout. Le livre que vous utilisez, c'est la même partout. And you have the 39 articles dont je viens de parler. Alors, je vais vous donner quelques exemples des 39 articles, pas les 39, parce que si je vous donne 39 articles, vous allez les oublier. Si je vous en donne 4, peut-être vous allez vous rappeler de deux, c'est pas mal. Okay, so of course, in the 39 articles, it says there is no Pope. The Pope is not important, of course. Also, very interesting, it says no saints. You must not pray to saints. You remember the Catholic method is, you know, St. Catherine, St. David, St. everybody, many saints. You can have your favourite saints. Yeah? But in the Protestant Church of England, no praying to saints. You will not pray to saints. Very Protestant idea. You don't need saints because we are Protestants and you have a direct relationship with God, every individual. That's the idea. Yeah? Which is a very individualist sort of look at the world. So no Pope, no saints, no purgatory. Remember, the Catholics say, okay, you're all dead, you're going to heaven, you've been very good, you're going to hell, there's no hope for you. But you have been half good and half bad, so 100 years in purgatory and then you can go to heaven, okay? This is the Catholic method. The Protestants say, look in the Bible. There is no purgatory in the text of the Bible, no purgatory. Purgatory does not exist. It is an invention of the Catholics and their popes. Yeah, so an important thing, no purgatory. On voit ce débat. Si vous connaissez un petit peu la pièce de Shakespeare, Hamlet, il voit au début, il reçoit un fantôme qui dit, je viens du purgatoire et je viens vous dire la vérité. Et au moment que Shakespeare a écrit cette pièce, il y a la moitié de la salle qui pense que oui, il y a un purgatoire, ça existe. Et donc il faut croire le fantôme. Et l'autre moitié du public qui pense, oh, non, mais il n'y a pas de purgatoire. Donc c'est sans doute le diable. Et il ne faut pas croire le fantôme. Alors Shakespeare a utilisé un débat de son époque, est-ce qu'il y a du purgatoire ou non, pour rendre plus excitant la pièce. Il était fort, le gars, il ira loin. OK, so, however, the Church of England, the 39 articles, they maintain quite a lot of hierarchy. The bishops are still very important. Les évêques restent très importants. Yeah, a lot of a certain amount of hierarchy. And they maintain some of the ceremony. Remember, the Catholics, it's Sunday. If you are a priest, you must put on this special clothes and another one round here and another one over here and a special hat. Very complicated ceremonial clothes, because the priest is so important in Catholicism. The extreme Protestants, the radical Protestants, say, that's enough, I'm a priest. I'm not going to change my clothes, I'm ordinary. And the Church of England, a compromise. Some special clothes for priests. À l'époque, ça causait d'énormes conflits. Si un prêtre mettait un vêtement un peu trop cérémonial, il se faisait engueuler dans l'église, etc. C'est dur. OK. And the other question, perhaps you remember there was a division between the Catholics and Protestants on the question of transubstantiation. On a Sunday, when the priest says, this is my body, which will be given up in, I can't remember, do this in memory of me, etc. The Catholics think there is a miracle, and the bread disappears and is replaced by the body of Jesus Christ. And the Protestants say, no, it's a symbol. This was a very controversial question, and Elizabeth said nothing. Dans les 39 articles, il y a une formulation qui veut rien dire. C'est un peu chacun, sur celui-là, chacun croit ce qu'il veut, hein, parce qu'on n'y touche pas, c'est trop chaud. Yeah. So you have this compromise position. And for many years, Elizabeth will try to stabilize this church and repress the Catholics. Oh, quelques exécutions de temps à autre catholiques. Quelques exécutions de temps à autre des protestants radicaux. Okay, just a little bit of vocabulary. You have these three groups, the Catholics, who are secretly Catholics. At this time, if you go to the north of England and you go to some of the local manoirs or les petits châteaux, always, or very often, there is a bookcase and it's a secret. Behind the bookcase, there's a special secret room to hide the priest. Because some of the Catholics who were rich and had big houses, if the army arrived, somebody told me there is a Catholic priest here. No, Catholic priest, no. They had a special room to hide the priest if you're a rich Catholic.
Il y a aussi une autre chose, que ceux qui restaient catholiques, souvent c'était des riches. Parce que les pauvres, ils ont déjà une vie tellement compliquée. Quand on leur dit, vous n'êtes plus catholique, vous êtes protestant, ils ont tendance à dire, bon, d'accord, hein, j'en suis pas là, quoi. Tandis que ceux qui le protégeaient, c'est plutôt les catholiques riches.
So that was what it was like for the Catholics. And you have here, on the other side, this is the dissidents. Now, dissidents are people who think the Church of England is shit, we need a new church, a new different separate church. And there are many different kinds of dissidents. Now, inside the Church of England, there are a lot of different opinions. Some of the Church of England people like a lot of ceremony, a special position for the priests, etc. On les appelle anglo-catholiques. Alors, ils font partie de l'Église de l'Angleterre, mais ils ont beaucoup de sympathie avec les cérémonies et les traditions des catholiques. And on the other side, inside the Church of England, you have Protestants who would like the Church of England to be more radical. And this is what we call Puritans. Ils veulent purifier l'Église. Alors, il y a un petit peu de confusion, parce que souvent on dit puritain quand on devrait dire dissident. Par exemple, on dit toujours que ceux qui sont allés aux États-Unis pour fonder une colonie là-bas, on dit oui, c'est les puritains. Au sens strict, non.
parce qu'ils ne voulaient pas réformer l'Église d'Angleterre, ils voulaient en fonder un nouveau à eux. Alors c'était plutôt des dissidents.
Ok, so extreme Protestants, extreme Catholics, and that's the situation going on. So life at this time very difficult for the Catholics. Executions. It is illegal to be a priest. Yeah. After 1585. After 1585, it is illegal to be a priest. You can be executed if you are a priest.
Alors, notez bien, elle attend 30 ans avant de passer une loi pour dire on peut exécuter tous les prêtres qu'on trouve. Parce que la situation est instable, elle n'ose pas le faire tout de suite. Il faut d'abord un peu de compromis, un peu de répression, un peu de compromis.
It's politics, yeah? Okay? So, but after 1585, you can be executed for being a priest. On the other hand, the dissidents, they want more. They want more reform.
J'ai oublié qui c'est qui avait dit qu'ils avaient une éducation catholique, mais dans l'église, à certains moments, on se met sur les genoux comme ça et on fait la signe. Ça s'appelle genuflection.
And the dissidents said, ah, this is very bad. There is no genuflection in the Bible. This is very bad. And so they said, we want no genuflection in the churches. Some more dissidents, some different dissidents said, we don't want bishops, on ne veut pas des évêques. Non, 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 chaque église devrait être gérée par un comité de gens localement.
Mais chez les
protestants,
il y a des évêques, il y a des bishops.
Dans l'église d'Angleterre, oui, oui, oui. Mais dans les dissidents, non, en général. Ok. Ça dépend des. Il y a 25 églises différentes ici. Et il y en a avec évêques, mais il y en a beaucoup sans quand même. Pour vous donner un exemple, l'église d'Écosse n'a pas d'évêque. Toute l'église officielle en Écosse n'a pas d'évêque. C'est ce qu'on appelle une église presbytérienne. Et presbytère, ça veut dire comité. Hein. C'est géré par des comités de presbytériens. One of the most important groups of Protestants are the Presbyterians. Et c'est eux qui vont gagner la bataille idéologique en Écosse. Et en Écosse, à ce jour, il n'y a pas d'évêque dans l'église officielle.
These are the different things that they wanted. Et là, je vous ai donné deux ou trois exemples, mais il y en a vraiment 25 églises avec des idées différentes ici.
Il y a les Anabaptistes qui sont contre le baptême. Il y a les Unitarians qui pensent que la Trinité, ça n'existe pas, etc., etc., etc. There's plenty of choice. Okay. And in Scotland, winners were the Presbyterians. Remember, at this time, Scotland is still a separate country. Yeah? The unity between England and Scotland is later. And the Scottish dissidents were very radical. For example, they said, you must not celebrate Christmas. Yeah, vous ne devez pas célébrer Noël. Why not? It's not in the Bible, the celebration of Christmas. Yeah, so that was just an example. Okay. So that's where we are with the church. Let's have a look at question number three here. The Queen and Parliament. The Queen and Parliaments. Well, the Queen, of course, needs money. In particular, she needs money for the war against Spain. Spain is the big enemy, and she needs money for the war against Spain. How does she find money? Well, monopolies.
Ça ne veut pas dire qu'elle va chercher les jeux de Monopoly et apprendre les billets. Hein? Non, c'est autre chose.
Monopoly is a way of getting money. It's very, very simple. If I want some money, I'm going to say that this gentleman here, every time you buy a bottle of whiskey in England, you must give £1 to this man. It's a special private tax. Every bottle of whiskey, that £1 is for him. This is a monopoly. He has the monopoly
of taxing whiskey. Give me $100 million, please. Yeah? So I am the queen. I am the queen. I have sold him a monopoly. C'est une forme d'impôt privatisé. Alors la reine va dire, bon voilà, je vous donne un exemple sur les jeux de cartes. Elle a vendu la monopolie sur les jeux de cartes. C'est-à-dire que tous les jeux de cartes vendus dans tout le royaume avaient une taxe spéciale qui allait au duc de machin, qui en récompense lui a filé beaucoup d'argent. So selling monopolies. So, en fait, c'est une forme d'inventer des impôts sans demander l'avis du Parlement. Bien sûr, le Parlement est moyennement content. Hein?
Le Parlement pense que c'est à lui de fixer les impôts. Ok, c'est very, very important. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'est ce Walter Raleigh. Walter Raleigh, il est très célèbre parce qu'il est revenu d'Amérique avec quelque chose qui est très important à une partie d'entre vous. Vous y pensez déjà parce que ça fait 1h10 que vous êtes là et vous n'avez pas pu. C'est Walter Raleigh qui a ramené le tabac en Angleterre. OK? Oui, désolé, je ne devrais pas en parler, ça, c'est encore pire comme ça. Oui. En plus, vous êtes né à la mauvaise époque. Comme moi, j'ai commencé à travailler en fac en 87. Je fumais pendant les cours. C'est vrai que c'est une autre... Et ça ne choque personne. Hein? Je donne les cours et je fumais en même temps. C'était merveilleux. ça se passe plus comme ça. Même il y a 6 ans, on pouvait fumer dans l'escalier. Ah bon, voilà, les choses changent. On va vivre plus longtemps, mais bon, on sera peut-être un peu plus misérable aussi. Ok, j'ai arrêté, heureusement. Ok, so these taxes, extra taxes, established by the Queen. This made the Parliament very angry. Yeah, that's the. Oh, and secondly, the system was very corrupt. La corruption, on a aujourd'hui, c'était encore beaucoup plus. Yeah. So there is a certain conflict between the Queen and Parliament. Now, I don't want to exaggerate. The Parliament considers. The job of the Parliament is to help the Queen to govern the country well. The role is Parliament, advice. Le Parlement ne pense pas que c'est à lui de gérer le pays, pas encore. Okay. Mais de conseiller la reine. Okay, so that's the situation. But over the next few years, we will see they will get more conflictual. Okay, finally then, on Elizabeth, the beginnings of empire. We have a period when, of course, since 1492, Columbus, there is a lot of moving around now. Roanoke. Is the first English colony in America. C'est symbolique, c'était un fiasco, c'était pathétique. Mais c'était le premier, alors c'est symbolique. Yeah. 1583, Roanoke, they went to America to look for gold. They didn't find any gold, and they all died. Because they didn't have any food. They lived for a while because the Indians gave them food. And then they died. Yeah. So this was the first disastrous attempt to colonize. But in general, there is more and more exploration in the north of America. At the north, they find fish, a lot of fish, very, very valuable. Parce que je sais pas pourquoi la géographie, mais à côté du Canada, il y a beaucoup de poissons. Okay, that's big money. Fish are wonderful. Fish, c'est plus facile à préserver avec du sel que ne l'est la viande. Huh? That's one thing. The other thing, furs, yeah, les fourrures. Yeah, very, very important. A lot of money there as well. And Elizabeth began a new method. En fait, c'est pas tout à fait nouveau parce qu'elle n'était pas le premier. Mais bon, elle en a fait beaucoup. Chartered companies.
Des chartes royales.
Chartered companies. Very simple idea. I am Elizabeth, the Queen of England, and I see that North America is very interesting. Okay, so here's the documents. North America belongs to you. Really, the Elizabeth wrote a chartered company. Your company, it can control and use and dominate North America. This one, Russia. Yeah. She established companies to dominate. Donc l'idée c'était que, puisque nous on est les vrais chrétiens, les Indiens d'Amérique ils ne vivent pas, on n'en a rien à foutre. Ou sinon, littéralement on arrive, c'est-à-dire oui, bonjour, vous mettez un croix là pour dire que vous acceptez la domination de notre reine. Non. Et vous, bon, c'est vite fait, c'est littéralement ils débarquaient, ils disaient c'est un...
It was very, very simply done. And this is the method of the chartered companies.
You had chartered companies from Morocco, Senegal, North America, etc.
So c'est simplement de donner à un groupe de personnes le droit, approuvé par la reine de l'Angleterre, de faire ce qu'ils voulaient avec tout ce qu'ils y trouvaient, que ce soit minéraux, que ce soit poisson, que ce soit personne, etc.
The biggest of the chartered companies, not the chartered company, that's a chartered company, the biggest one is the East India Company. Et le East India Company,
c'est une histoire étrange, qui va devenir une entreprise privée qui contrôle l'Inde, toute l'Inde, pendant plusieurs centaines, pendant plusieurs siècles. C'est une forme particulière de colonisation. Colonisation par entreprise privée interposée. Ce n'était pas tout à fait exprès parce qu'ils ne savaient pas quel était l'avenir. Bon, ce n'était pas tout à fait exprès. Ils trouvaient normal de massacrer tout le monde parce qu'ils avaient envie de ce qu'ils avaient. Mais ils ne savaient pas que ça allait durer aussi longtemps.
These made a lot of money. Lots of money, huge amounts of, and you got more rich merchants who were making a lot of money out of this. And also, around the same time, 1562, the beginnings of the triangular trade. Le tout début du commerce des esclaves, du commerce transatlantique des esclaves, où on va en Afrique de l'Ouest prendre des esclaves pour les ramener en Amérique aux Antilles pour les vendre, pour acheter du sucre, pour aller en Angleterre pour le vendre, pour acheter des textiles pour les vendre en Afrique. The triangular trade. Bien sûr qui est sans doute, certainement avant l'arrivée de Hitler sur la scène de l'histoire, c'est le crime contre l'humanité le plus grand de toute l'histoire. Je pense que c'est vraiment très, très impressionnant. Et ça avait intérêt d'être du bon côté.
Okay, so that is the situation when Elizabeth dies in 1602.
Je vais un peu plus lentement que prévu dans le programme, mais c'est pas très grave. On n'est pas pressé. So we got to 1602.
Je vais vous parler encore 7 minutes. Je trouve que vous écoutez pas mal, c'est beaucoup. Une heure et demie du 16e siècle en anglais, c'est beaucoup. Ok, 1602. Je le ferai pas moi. Alors, comment ça se fait que c'est... Ah oui, elle est morte à la fin de l'année, elle est couronnée au début de l'année suivante. Alors c'est 1603, 1625.
The next king, James the First. The next two kings, James from 1603 to 1625, Charles from 1625 to 1649. So... they will inherit a stable Church of England. Yeah? They will still have problems. They will still have some problems with the Catholics,
and some problems with the dissidents. But the situation is fairly stable. However, they will also inherit a situation of conflict between king and parliament, which will get more and more violent. And although James dies happily in his bed, well, maybe not happily, but in his bed, Charles is executed by the Republicans. So what happened? Elizabeth has stabilised the situation by the end of, by 1602, and yet only 50 years later, you have a civil war. Now, remember, in general, people try to avoid having a civil war, because civil wars are very dangerous, more dangerous than wars with another country. Also, for example, in a civil war, you cannot be neutral. Yeah? If you live in Manchester and the King's army arrives in Manchester, yeah, and the Parliament's army is on the other side, it's impossible to be neutral in a civil war. And a civil war is also, of course, extremely political. So we'll look at that. So let's see what happened to make this this happen. Well, here's a few dates from James's reign. When the new king came to the throne, everybody hoped that the situation would be better. The Catholics said, oh, I hope the new king is nicer to Catholics. And the dissidents said, oh, I hope the new king is more radical in his Protestantism. One of the first things which happened, je reviendrai à un autre dans un instant, the gunpowder plot, a group of Catholics who decide to solve the problem by exploding the Parliament and the king and all the lords and killing them all. However, they are not successful. They are not successful. They are captured and tortured and executed. And even today, every year in Britain, on the 5th of November, in England, we celebrate this this event. Donc en fait, on fait des feux de joie tous les ans, au 5 novembre, feux de joie, feux d'artifice, pour, apparemment, nous dit-on, pour fêter le fait que les catholiques n'ont pas réussi à tuer le roi et ses lords. Nous, moi, j'étais dans une famille catholique. Nous, en fait, c'est le fait qu'ils avaient essayé. C'est toute une question de point de vue. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une fête où tout le monde connaît l'origine, mais c'est complètement pas du tout politique aujourd'hui. On le fait comme Thanksgiving. Les gens, ils font Thanksgiving aux États-Unis parce que ça se fait. OK, so, very, very important. Of course, this was a small group of terrorists. However, after this, the government and the people attacked all the Catholics and said, this is the fault of all the Catholics. Vous voyez plus ça change? OK. Right. 1606. The use of the Union Jack, you know, the flag. It's only a piece of material, it's only a flag, but it's symbolic, first of all, because the flag is became important, therefore, yeah, domination, and also the unity of the interests of the elites in Scotland, England, and Ireland. Okay, the Union flag. One more. Je ne sais pas si ça a disparu à l'école. Au collège, vous travaillez encore sur les logarithmes ou c'est fini tout ça? Vous savez ce que c'est les logarithmes? Oui, vaguement. C'est bien, c'est très bien. Bah, ils étaient inventés par un Anglais en 1616, en 1617. Which is symbolic and important because although today you have your calculator or your iPad, at this time, they didn't have any calculator, they didn't have any iPads, yeah? Okay, so the logarithm, this was an important mathematical advance. And in particular, it was very useful if you were on a ship, you need to calculate where you're going, because shipping was very dangerous, and when your mathematics was better, you were safer. Okay, that's enough for today. Thank you for your attention, and I'll see you here at the same time next week.